La Parole des Contes, une émission proposée par Janine Rabat, mise en musique Olivier Rabat.
Vangfo Elling. Il était une fois un conte, quelque part où le soleil se couche, sûrement au-delà de cette fois sept pays. Le vieux peintre Vangfo et son disciple Ling cheminaient sur les routes du royaume de Han. Ils allaient lentement, car Vangfo s'arrêtait souvent pour regarder un carabe doré traversant le chemin, les couleurs d'une fleur fanée, des nuages effilochés, les rides d'une écorce, les marbrures d'une pierre égarée sur la route, et tant de choses qu'un peintre aperçoit, regarde, observe, admire, dessine et peint. Ils étaient peu chargés, car ils étaient pauvres, car Vangfo préférait l'image des choses aux choses elles-mêmes, et car il n'achetait que des pinceaux, des pots de laque et d'encre, des rouleaux de soie et de papier de riz. Il possédait peu, mais Ling ployait sous le poids d'un sac plein d'esquisses et de peintures. Des ciels céruléens, ensoleillés, étoilés, nuageux, orageux, des montagnes enneigées, des rizières escarpées, des buffles dans les champs, des chevaux en liberté, une multitude de paysages. Et des hommes, des femmes, des enfants. Ling avait l'impression de porter le monde sur son dos. Ling n'avait pas toujours été le compagnon du peintre Vangfo. Ling était né dans une famille très riche. Son père était changeur d'or et sa mère, fille, unique héritière d'un marchand de jade. Il avait grandi dans une maison où la richesse avait écarté maintes difficultés et éliminé tout hasard, mais l'avait rendu craintif, peureux, sauvage. Il avait peur du noir, des autres, des insectes, de l'orage, de l'inconnu, de la nouveauté, de la mort, c'est-à-dire de la vie. Lorsqu'il eut 15 ans, son père lui choisit une épouse, une très belle jeune fille, frêle comme un roseau, douce comme le miel. Ling aimait sa femme. Il ne fréquentait que très peu les maisons de thé, les auberges, les tavernes. Seulement de rares fois, pour obéir à la coutume. C'est pourtant dans une taverne, un soir, une nuit, que Ling rencontra Vangfo. Il fut son compagnon de table. Vangfo était venu peindre les buveurs. Ling en était ébahi. Il n'avait jamais pensé qu'on pût s'intéresser à ces hommes. Il regarda avec étonnement Vangfo dessiner et peindre leurs joues rouges, leurs lèvres gourmandes, leurs yeux brillants de désir ou d'ébriété, leurs cheveux en désordre. Ce soir-là, Vangfo peignait, mais aussi parlait. Il fit remarquer à Ling la beauté des taches de vin étalé sur la nappe comme des pétales de fleurs fanées ou des dentelles colorées. Lorsqu'un orage éclata, il fit remarquer à Ling l'élégance et la grandeur de la zébrure de l'éclair. Sa couleur lumineuse, éclatante sur le noir profond et mystérieux. Ling n'eut plus peur de l'orage. Il devenait moins craintif, plus curieux. Il découvrait des formes, des couleurs, des beautés insoupçonnées. Ling offrit le gîte à Wang Fo. Ils partirent de la taverne. Malgré la nuit, Wang Fo fit remarquer à Ling la marche rapide et légèrement sautillante de la fourmi. Le houppier d'un arbuste ressemblant à une chevelure de femme. La vraie couleur d'un mur, celle d'une orange trop mûre. Ling n'eut plus peur du noir, ni des insectes. Il découvrait un autre regard sur les hommes et le monde. Il devenait attentif et curieux. Ling installa Wang Fo dans la chambre de ses parents. Wang Fo prit plusieurs fois Ling et sa femme comme modèle pour peindre une jeune fille jouant du luth sous un saule, un jeune homme tirant l'arc dans la forêt, une nymphe parmi les nuages du couchant. Tantôt l'un, tantôt l'autre, selon ce qu'il recherchait, l'essence des êtres plus que leur apparence. La jeune femme de Ling, de constitution fragile, cessa prématurément de vivre. Wang Fo la peignit une dernière fois. Ling vendit petit à petit tous les biens de sa maison pour acheter à Wang Fo des pots d'encre pourpre qui venaient d'Occident et coûtaient très cher. Quand la maison fut vide, Ling et Wang Fo la quittèrent pour toujours. Depuis, Wang Fo et Ling cheminaient sur les routes du royaume des Han. Wang Fo était un grand peintre, très connu, et sa réputation le précédait dans les villes et les villages. On disait que sa peinture était vivante et qu'il pouvait lui donner vie par sa dernière touche de couleur. Aussi lui demandait-on de peindre un chien de garde, des buffles pour le travail des champs, des chevaux pour la course, des animaux de basse cour, et de rares fois, des personnes aimées, défuntes. Wang Fo et Ling étaient arrivés aux abords de la ville impériale. Il faisait très froid, mais Ling avait réussi à trouver une auberge pour la nuit. À l'aube, des soldats entrèrent, empoignèrent Wang Fo et lui ordonnèrent de les suivre. Ling suivit aussi. Après une marche très fatigante, ils arrivèrent au palais impérial. Les soldats n'avaient donné aucune explication. Wang Fo et Ling entrèrent, traversèrent de nombreuses salles, carrées ou circulaires, aux décors symboliques tous différents. Ils arrivèrent dans la salle du trône, soutenue par des colonnes bleues, prolongée par un jardin, terminée par un énorme mur. L'empereur, surnommé le dragon céleste ou le maître céleste ou le fils du soleil était là, assis sur son trône de jade. Wang Fo ne put s'empêcher de remarquer la beauté de cette pierre, symbole de pureté et d'immortalité, protectrice d'un cœur sain et bien portant, disait-on en Chine. Il en admirait la couleur si particulière, indéfinie entre le vert et le bleu. Il regardait aussi la robe de l'empereur, ample et lourde de soie, bleue d'un côté pour figurer l'hiver, verte de l'autre pour rappeler le printemps. L'empereur était entouré de ses courtisans, vêtus de longues robes de soie, aux très larges manches décorées de fleurs et d'oiseaux. Wang Fo dit « Dragon céleste, je suis pauvre, faible, vieux. Tu es comme l'été, je suis comme l'hiver. Tu as 10 000 vies, je n'en ai qu'une qui finit. Que t'ai-je fait ? Ce que tu m'as fait ? Ce que tu m'as fait ? Répliqua l'empereur, je vais te le dire. Mon père avait rassemblé une collection de tes peintures dans la salle la plus secrète du palais où j'ai été élevé et où il n'était permis à personne de venir. J'ai regardé tes peintures le jour et la nuit et je me suis représenté le monde tel que tu l'avais peint. J'ai cru que la mer était si bleue qu'en y tombant, une pierre s'y changeait en saphir. J'ai cru que les femmes s'ouvraient et se refermaient comme des fleurs. J'ai cru que les jeunes guerriers étaient des flèches qui apportaient le triomphe et la paix. À 16 ans, j'ai découvert le monde sur la terrasse du palais. Les nuages ne ressemblaient pas aux nuages si beaux de tes ciels. Il n'y avait pas de jardin plein de femmes dont le corps est lui-même un jardin. J'ai vu des hommes indignes, mauvais, des soldats grossiers et traîtres. Tu m'as menti, tu es un imposteur, le monde n'est pas tel que tu l'as peint et pour cela tu auras les yeux brûlés et les mains coupées. Ling se précipita vers Wang Fo, mais un soldat leva son sabre et la tête se détacha de sa nuque, pareille à une fleur coupée de sa tige. Le cœur de Wang Fo se serra et il ne put s'empêcher de remarquer le rouge du sang sur le bleu vert du pavement de jade. L'empereur ajouta, « Une de tes peintures était restée inachevée. Je veux que tu la finisses. Si tu refuses, je ferai brûler toutes tes œuvres. » On apporta à Wang Fo la peinture inachevée. Il eut un léger sourire. Elle lui rappelait sa jeunesse. La peinture était à peine esquissée. Un trait séparait le ciel et la mer. Quelques rochers se dressaient au large. Une barque, juste ébauchée, occupait le premier plan. On apporta à Wang Fo les pinceaux et les couleurs sur une petite table basse. Wang Fo décida de travailler le ciel. Il parsema sur le bleu-gris pâle de petits nuages cotonneux. Puis, il s'occupa de la mer. Il la fit bleue, très bleue, et forte parsemé de traits, de taches, de zébrures, de bandes de bleu différents, côte à côte ou superposées, du bleu clair au bleu outre-mer, en passant par tous les tons de bleu dont il disposait. Il ajouta quelques reflets très légèrement blanc-bleutés et quelques reflets plus appuyés, roses. La mer était majestueuse, mais immobile, trop immobile. Wang Fo prit un pinceau très fin, un blanc doux et léger comme l'écume, et il dessina de petites rides sur la mer. La mer commença à s'animer, à s'agiter. À l'instant même, le pavement de jade de la salle du trône commença à s'humidifier. Wang Fo grisa légèrement les rochers du large, puis il entreprit de finir la barque. Sur le banc de la barque, il décida Ling, assis, une écharpe rouge sang autour du cou. Ling tourna la tête et regarda Wang Fo. Wang Fo s'étonna. Ling dit « vous savez bien, on dit que votre peinture est vivante, que votre dernière touche de couleur peut donner vie. Vous, vivant, comment ne le serais-je pas aussi ? Partons !» Pendant que Wang Fo animait la mer avec des vagues et qu'il peignait la barque, l'eau était montée dans la salle du trône et atteignait le cou de l'empereur et des courtisans. Les tresses des courtisans submergés ondulaient à la surface de l'eau, comme des serpents. La tête de l'empereur émergeait comme une fleur de lotus. Wang Fo s'inquiéta. Vont-ils périr noyés ? Ling le rassura. Ces gens-là ne sont pas faits pour se perdre dans une peinture. Partons ! Wang Fo monta dans la barque et prit le gouvernail. Ling prit les rames, tourna la barque vers le large, attendit quelques instants. L'eau descendait dans la salle du trône. Le pavement de jade fut bientôt sec. Les robes de l'empereur et des courtisans étaient sèches. Il ne restait que quelques petites flaques sur le pavement et quelques franges d'écume au bord des manches de la robe de l'empereur. La peinture était posée sur la table basse. Cette peinture si vivante de Wang Fo. La barque s'écartait peu à peu du premier plan. L'empereur la regardait s'éloigner. Un nuage blanc s'éleva au-dessus de la mer. La barque vira autour d'un rocher qui fermait l'entrée du large. Son sillage s'effaça. Le peintre Wang Fo et son disciple Ling venaient de disparaître à jamais de cette mer de jade bleu-vert que Wang Fo venait d'inventer. La peinture, désormais achevée, était toujours posée sur la table basse. L'empereur la regardait, profondément troublé, profondément troublé. Mon conte est terminé, il repart, quelque part, où le soleil se couche, sûrement, au-delà de cette fois, cet pays. C'était un très vieux conte chinois, repris par Marguerite Yourcenar.